Bonsoir. Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, a indiqué vendredi 16 septembre que la RDC occupe la première place au monde avec 27 millions de personnes en insécurité alimentaire. Il a dit au cours d'une conférence de presse à Bukavu, au sud Kivu. Comme solution à ce fléau, ce haut fonctionnaire de l'ONU préconise que le partenaire au développement travaille de manière coordonnée. Pendant ce temps, les parlementaires congolais ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement de présenter un budget devant améliorer le social de la population. C'était lors de l'ouverture de la session ordinaire de septembre au Palais du Peuple le 15 septembre dernier. Pour le président de la Commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, le budget 2023 devra prioriser la diversification de l'économie afin de lutter contre la pauvreté de la population. Que pensez-vous de ce classement? Comment promouvoir l'agriculture en RDC pour faire face à l'insécurité alimentaire? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 20 septembre 2022. Participe au débat professeur Apollinaire Kilosomoyene, directeur des cabinets du ministre de l'Agriculture. Professeur Apollinaire Kiloso, bonsoir.
Bonsoir.
Olive Moudekereza, député national élu de Walungo, Sud Kivu. Vous êtes ancien président de la FEC dans cette province, également opérateur économique. Olive Moudekereza, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Victor Zouzi, paysan, il est coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Il est basé au Congo central. Victor Zouzi, bonsoir. Victor Zouzi, bonsoir. Est-ce que vous êtes en ligne? Je crois que nous l'avons perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Merci de nous suivre à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga sous la 95.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal+, suivez-nous sur Canal 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-78 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire a eu un tête-à-tête avec la presse locale vendredi dernier à Bukavu. Dans son mot introductif, Bruno Lemarquis a mentionné que la RDC occupait la première place des cas de malnutrition sur l'échiquier mondial et encore premier en Afrique en termes de déplacés internes. Pour le Sud Kivu, lui seul, 16% de la population vit en insécurité alimentaire. Jean Kassami nous fait le point.
D'après le coordonnateur des affaires humanitaires en République démocratique du Congo, le pays compte 27 millions de personnes qui souffrent de la malnutrition. Toujours et encore, la RDC renferme 5,5 millions de déplacés internes. Bruno Lemarquis propose quelques pistes de solutions.
Que les partenaires qui travaillent dans le développement, les partenaires qui travaillent dans l'humanitaire, travaillent de manière coordonnée avec les autorités provinciales pour s'attaquer à certaines des causes qui créent les besoins humanitaires, par exemple la question des infrastructures routières, des infrastructures de transformation agricole, etc.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies a tenu aussi à lever l'équivoque en établissant la nuance entre la MONUSCO et les Nations Unies.
C'est vraiment important que vous compreniez que la MONUSCO, c'est un membre d'une famille des Nations Unies. La famille en RDC, elle a 24 membres. Et on peut rajouter au moins une dizaine d'autres membres de la famille qui travaillent avec la RDC mais qui ne sont pas en RDC.
Bruno Marquis a informé la presse qu'il a échangé avec le gouverneur du Sud Kivu sur la transition de la MONUSCO en RDC. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Professeur Apollinaire Kilosomoyene, vous êtes directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture. 27 millions de personnes en insécurité alimentaire. La RDC occupe la première place au monde. Quelle lecture vous faites de ces classements?
Merci, madame, pour la question. Et je pense que la RDC connaît de très sérieux problèmes d'insécurité dans certaines zones. Et cette insécurité a occasionné le mouvement de personnes, mouvement de population. Saviez-vous qu'en RDC, 55% de sa population vivent en zone rurale. Et l'activité la plus organisée en ces zones, c'est l'agriculture. Et en cas d'insécurité, les gens abandonnent les champs, les gens fuient les atrocités, et c'est ce qui justifie qu'ils se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas se nourrir. Si vous regardez la répartition de la population en RDC, l'ex-province de Kivu est la province la plus peuplée. Et c'est dans ces zones où l'insécurité plane, où on vit du jour au jour les atrocités. C'est ce qui justifie le mouvement des populations et c'est ce qui crée l'insécurité. Et tout récemment, on a connu des problèmes au niveau du centre du pays vers le Grand Kasaï avec le phénomène malheureux de Kamuinansapu qui a occasionné aussi le mouvement des populations et c'est ce qui justifie les taux les plus élevés.
Professeur, le taux les plus élevés se retrouve aussi dans le Kwango, mais il y a aussi la province du Tanganyika. Est-ce aussi un problème d'insécurité?
Mais la province de Tanganyika aussi connaît des problèmes d'insécurité, mais il y a aussi l'insécurité en interne. Ce qui se passe actuellement à Kwamutu et vers le Congo aussi. Le conflit généré entre les Yaka et les Teke.
Mais ça c'est récent. Ça c'est récent, professeur.
Madame, j'insiste, au niveau de la province du Congo, il y a aussi les problèmes liés à la baisse de la productivité. À part ça, il y a aussi les problèmes liés, par exemple, la chenille légionnaire qui attaque certaines cultures. Il y a les problèmes de diminution de rendement suite au problème des semences. Tout ça, c'est lié, c'est corrélé.
Selon vous, professeur Apollinaire Kiloso, ce classement est logique?
Bon, ça ressort des enquêtes qui ont été menées par l'IPC, mais ça reste à vérifier. Est-ce que tous les villages ont été couverts? Hein, il faut vérifier l'échantillonnage et il y a plusieurs éléments à prendre en compte.
Alors, il y a plusieurs sources qui disent que près de 50% des terres arables de la RDC sont bradées. Est-ce que vous confirmez cette information qui circule?
Madame, il n'y a pas de documents fiables qui prouvent cela. Je pense que nous devons revoir, parce que l'agriculture en RDC est tributaire de Ploui. Nous n'appliquons pas encore la politique ou la stratégie d'irrigation. Nous avons trop de défis au développement du secteur agricole. Et je pense que c'est là qu'il fallait partir pour comprendre qu'est-ce qui fait que nous sommes riches, potentiellement riches, mais nous ne sommes pas capables de produire la nourriture. Il y a la politique agricole. Nous devons revoir aussi notre façon de faire. Jusque-là, l'agriculture est purement familiale. Et tout dépend de ces ménages qui pratiquent l'agriculture pour qu'ils puissent passer des 0,3 hectares qui sont en train d'embraver vers demi hectares, par exemple. Donc, il y a moyen que nous puissions encore, lors des états généraux de l'agriculture, nous avions relevé toutes ces contraintes-là et il suffit maintenant d'y penser. Et d'ailleurs, si vous avez suivi les discours d'ouverture à l'Assemblée nationale, il y a nécessité d'augmenter la part du budget qui devrait être alloué à l'agriculture.
Parlons de budget, on sait qu'en 2021, c'était 1% qui était alloué à l'agriculture. La RDC dépense chaque année environ 2 milliards de dollars pour acheter la nourriture à l'extérieur. Beaucoup de gens pensent que si cet argent dépensé pour importer la nourriture était affecté à la production agricole, cela pourrait changer beaucoup de choses.
Oui, madame, je suis de votre avis. Nous dépensons plus de 2 milliards pour acheter la nourriture, mais c'est quel type de nourriture que nous achetons, hein? La plupart des nourritures que nous importons, ce sont des déchets. Mais il faut maintenant relancer la production locale, il faut valoriser les produits et il faut bien faire pour faire la collecte ou le ramassage des produits dans les milieux ruraux et les acheminer vers les centres urbains. Mais à cela s'ajoutent les problèmes des routes et des dessertes agricoles. Il y a les problèmes des infrastructures qu'il faut à tout prix corriger. Et si on arrivait, par exemple, à bien draguer ou baliser nos rivières et cours d'eau, je pense qu'on peut ramener les lots les plus importants des produits agricoles vers les grandes agglomérations. Et dans cela, maintenant, il faudrait qu'il y ait l'effort conjugué entre le ministère de l'Agriculture, le ministère du Développement Rural, le ministère des Infrastructures pour que nous arrivions quand même à satisfaire le besoin de la population. Nous parlons de budget, il faut un budget conséquent. D'ailleurs, l'accord de Maputo stipulait qu'on devrait accorder au moins 10% du budget à l'agriculture. Et les pays qui ont mordu à cela, Je pense qu'ils ont un niveau de vie élevé par rapport à la RDC. C'est l'effort qui devrait être conjugué et nous pensons avec la volonté du chef de l'État en prenant la revanche du sol sur les sous-sols parce que depuis les années passées, nous avions abandonné l'agriculture, on s'était orienté vers les mines. Et quand vous voyez les budgets qui étaient alloués, par exemple, au secteur minier, on ne peut pas les comparer avec ce qui est alloué à l'agriculture. Et maintenant, là, on s'est rendu compte qu'avec les mines, ça ne nous a pas permis à ce que nous puissions avoir quelque chose qui devrait être réinvesti au pays. Et je pense qu'il y a moins lieu d'investir dans l'agriculture. Parce qu'en investissant dans l'agriculture, si nous nous lançons vers les chaînes de valeur, on pourrait utiliser la main-d'œuvre locale, on pourrait allonger le cycle de vie de certains produits et on pourrait maintenant prôner la consommation locale et nous serons maintenant dans les bons, dans ce sens que on devrait quand même favoriser l'obtention de devises pour le pays au lieu tout le temps de dépenser l'argent pour apporter de la nourriture. Mais quel important là. Donc il faut orienter maintenant ces 2 milliards dans la production. Par exemple, nous sommes au mois de septembre. Si on s'est lancé dans la production céréalière, les céréales, on peut récolter après 4 mois. Donc, on pourrait inonder les marchés en riz, en maïs, et au lieu que l'argent soit distribué dans des ministères pour acheter encore riz, le poulet, l'huile végétale.
Mais pourquoi
pour
cela ne se fait
avec
pas
les festivités de fin d'année.
Professeur Apollinaire, mais pourquoi cela ne se fait
donc,
pas?
Donc, nous pouvons... Il y a d'abord la volonté politique. Et des deux. Nous devons avoir un budget conséquent pour le secteur agricole. Et le budget est voté au Parlement. C'est au Parlement et aux honorables de songer à l'agriculture parce que l'agriculture est le secteur primaire, le secteur de base.
Merci, professeur Apollinaire. On vous garde encore dans cette émission. Olive Moudekereza, vous êtes député national, élu de Walungo Sud Kivu. Vous êtes ancien président de l'AFEC dans cette province, également opérateur économique. Que pensez-vous de ce classement?
Je crois que ce classement peut refléter la réalité. Nous venons de terminer les vacances parlementaires. J'ai fait un tour dans presque tous les territoires de la province du Sud Kivu. Je vous assure, madame, que la RDC a le potentiel énorme. Malheureusement, il n'y a pas une politique agricole dans notre pays. Il faut la volonté politique et du courage politique. Nous sommes déjà à Kinshasa, je crois que ma proposition pour le budget 2023, je proposerai que, à part la défense, l'agriculture, l'enseignement et la santé, les 3 secteurs-là puissent prendre le gros du budget. Si vous donnez aujourd'hui notre défense à 10% et vous donnez l'agriculture 10, même à 5, et l'enseignement, vous verrez, madame, que ce qui va se développer. Parce que vous ne pouvez pas développer l'agriculture si tu n'as pas la sécurité. Je viens de faire un tour Bukavu, Mwenga, Lwimbi. J'ai fait 2 jours pour 100 km. Ailleurs, 100 km, vous avez 1 heure. Comment voulez-vous que les producteurs qui sont à 100 km puissent ramener leurs produits en ville? Je suis allé à Uvira. À Uvira, Bukavu, j'ai fait toute une journée. Il y a 60 km entre Bukavu, Kamanyola, Ngomo. Vous faites 2 jours pour atteindre la plaine de la Ruzizi. C'est une plaine qui peut produire plus de milliers de milliers de maïs, diri. Nous devons avoir une politique agricole soutenue par le gouvernement. Il faut irriguer la plaine, par exemple. Il faut dans les bancs, il faut dans les marais, drainer nos marais. Mais comment voulez-vous produire sans faire cela? Il faut une bonne recherche. C'est pour cette raison que je pense la RDC qui a 80 millions d'hectares parables. Moi, je dirais que ce n'est pas même 80 millions d'hectares. Si vous y ajoutez les bafos, tous les marais, je prends mon territoire de Walungu. Nous avons environ 5 000 hectares de marais. Si vous perdez ces marais, vous cultivez par exemple le maïs, vous produirez 5 hectares par 5 tonnes d'hectares pour le maïs, vous aurez au moins sur 5 000 hectares, 25 000 tonnes. 25 000 tonnes, vous pouvez alimenter toutes les provinces voisines, Nord Katanga, Nord Kivu, même les pays voisins peuvent commander, exporter vers ces pays au lieu d'importer de ces pays-là. Et il n'y a pas cette politique. Vous savez,
donc pour vous, Olive Mudekereza, la politique agricole n'existe pas en RDC.
Je peux le dire parce que nous sommes les seuls pays au monde qui n'a pas de crédit agricole. Mais c'est pourquoi je voudrais insister pour dire, dans les budgets, moi je vais insister, nous aurons maintenant un budget environ de 15 milliards, c'est 14 millions. Mais d'ailleurs, si on avait un guichet unique avec une autorité de revenus comme notre pays voisin de la région qui ont des autorités de revenus, le Congo peut atteindre même 20 milliards. Si nous avons un budget de 20 milliards et nous donnons par exemple à l'agriculture 5% à 10%, nous aurons au moins à peu près un milliard de dollars. Un milliard, on peut le diviser à trois. Une partie, on le met à la disposition des crédits agricoles. On prend la moitié, une partie, on le met à la recherche. On donne à toutes les universités pour former des jeunes ingénieurs agronomes, les moniteurs pour aller dans chaque territoire. Et on prendrait aussi une partie pour l'équipement. Vous drainez tous les marais, vous irriguez. En Égypte, il existe un ministère d'irrigation pour produire. Donc nous avons un potentiel, mais il faut le transformer en réelle richesse.
Mais nous avec ce problème d'insécurité que vous avez soulevé vous-même, pensez-vous que même si on mettait tout ce que vous proposez en œuvre, cela pourrait promouvoir l'agriculture en RDC?
Moi, je vous ai dit que le budget, que si ce n'était pas une année électorale, je dirais que même l'armée, on le donne par exemple 20%. Si l'armée a 10% ou 20%, il est dans les 3 milliards. Vous pouvez, avec l'armée, sécuriser le pays. Ailleurs, on commence par l'armée, la sécurité. Vous ne pouvez pas aller au chat sans sécurité. Et aussi, vous ne pouvez pas aller défendre la nation, se battre sans manger. Vous ne pouvez pas aller soigner ou former les gens sans manger. L'agriculture reste aussi côté des priorités. Mais la grande priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Vous dites, c'est vrai, moi, pour atteindre Mwenga, on ne pouvait pas passer la route pendant la nuit. C'est la sécurité presque partout, comme on dit. Vous allez même... J'ai rencontré les commerçants qui viennent de Kalima, du Katanga, l'huile de palme, qui viennent de Maniema, arrivent à Bukavu pour conduire jusqu'à Goma. Mais les gens font un mois pour atteindre, quitter Kalima, sur le Maniema ou Kalemi, pour atteindre Bukavu, Goma, il faut au moins 1 à 2 mois. Pas de route, insécurité, tout ça, ça fait partie des blocages du développement. Je crois que nous devons nous investir la priorité dans la sécurité, ramener la sécurité partout. On peut aller au champ la nuit et la journée, vous revenez la nuit, vous partez le matin. C'est comme ça que ce pays sera développé.
Victor Zouzi, vous êtes paysan et coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Vous êtes basé au Congo central. Votre analyse sur ce classement, la RDC, qui occupe la première place au monde avec 27 millions de personnes en insécurité alimentaire, alors qu'elle possède plus de 120 millions d'hectares de terres arables. C'est quand même paradoxal, hein?
Oui, c'est paradoxal. Je commence d'abord par saluer mes co-débatteurs, les députés et les professeurs, et aussi saluer tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi. Oui, c'est vraiment paradoxal. Et là, quand j'entends le professeur qui est le directeur du cabinet du ministre, qui parle du budget de Maputo, oui, mais écoute, quelles ont été les propositions présentées par le ministre avant l'élaboration du budget? Et les députés qui parlent, oui, ils sont nos représentants, les députés, ce sont eux qui doivent voter la loi budgétaire pour que réellement le Congo respecte l'engagement qu'il a pris à Maputo. Et c'était en 2003, vous pouvez dire, lorsque la RDC a pris cet engagement à Maputo pour que le budget national qu'on consacre 10% du budget à l'agriculture. C'est qu'on ne fait pas. On ne respecte jamais ces engagements, malheureusement. Alors, l'insécurité, c'est vrai. À l'Est, il y a la guerre. On ne peut pas travailler dans cette insécurité-là, c'est clair. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de malnourris, qu'il y ait beaucoup qui souffrent de l'insécurité alimentaire dans notre pays. Mais nous vivons aussi l'insécurité au Congo central. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Désolé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas planter et récolter calmement. Donc vous devez aller veiller dans votre champ, parce qu'il y a des petits voleurs qui viennent dans le champ. Ça, c'est l'insécurité aussi. C'est une forme d'insécurité dont on doit parler. L'insécurité foncière. Aujourd'hui, chez nous, dans le Congo central, il n'y a pas de guerre. Mais vous avez toujours des problèmes, des conflits fonciers qui font que vous ne pouvez pas rester au village. Vous ne pouvez pas rester au village. Vous êtes embêté tout le temps à cause de ces différends, de ces conflits fonciers qu'on n'arrive pas à traiter. Et le problème de route, et où s'ajoute maintenant le problème du climat. Donc, lorsque nous disons, nous devons irriguer, comme le professeur l'a dit, ou le député qui dit qu'en Égypte, il y a des ministères d'irrigation et consorts. Mais qu'est-ce qui manque chez nous? Nous avons les eaux, nous avons la pluie, souvent, mais nous avons les rivières. Pourquoi nous ne pouvons pas irriguer? Simplement parce qu'il y a une mauvaise gestion de nos fonds, il y a une mauvaise gouvernance. Les fonds publics sont mal gérés. D'ailleurs, il suffit de voir combien de détournements en termes de millions qu'on est en train de vivre dans ces pays. Donc, c'est décourageant. Mais il y a aussi des éléments qui font que, à part les infrastructures routières, il y a des éléments qui font que les gens ne peuvent pas, aujourd'hui, manger à leur faim, sinon vendre ce qu'il faut pour alimenter les grandes agglomérations. Imaginez-vous des gens qui n'ont pas de l'eau potable. Et ces gens-là doivent se retrouver à l'hôpital tout le temps avec les maladies hydriques. Donc, ils finissent par vendre les réserves alimentaires, pour soigner leurs enfants. Donc, nous sommes dans une situation où nous devons réfléchir. La transformation des produits, comme disait le professeur, si nous devons passer à l'étape des chaînes de valeur, il y a beaucoup de produits. Vous allez dans le Manyanga, ici au Congo central, vous avez des ananas qui pourrissent. Faute de transport. Des ananas alors qui pourrissent. Donc nous avons des mangues qui pourrissent parce qu'on ne sait pas les transformer, on ne sait pas les conserver. Donc ce sont des problèmes que nous devons résoudre. Et dans tout cela, il faut qu'il y ait une bonne gestion. Et nous sommes très loin de la bonne gestion dans notre pays. Et d'ailleurs, dans le milieu villageois, on considère la bonne gestion, ce n'est pas seulement mettre le fond, mais il faut former. Quand vous prenez la loi agricole vous dit qu'il y a la formation. Mais qui forme les paysans? Les paysans ne sont pas formés. Il n'y a pas de formation pour les paysans. Et là où il y a des projets où on doit s'occuper de formation pour les paysans, vous verrez que le gouvernement ne suit même pas l'exécution de ces différents projets. On en a connu dans le Congo central, on doit former les paysans en entrepreneuriat, on doit former les paysans en gestion, en transformation, mais personne n'a suivi. Et à la fin, le projet se termine, et voilà, les paysans sont abandonnés eux-mêmes.
Professeur Apollinaire Kiloso, comment vous réagissez aux propos de Victor Nzuzi concernant l'exécution des différents projets, pas de suivi de la part du gouvernement, pas de formation pour les paysans. Il estime que c'est d'abord un problème de mauvaise gouvernance qui est à la base de cette crise alimentaire en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je soutiens les propos de mon prédécesseur tout de suite là, du Congo central. Ce qu'il a évoqué, il n'a pas tort. En réalité, vous devez aussi savoir que nous sortons de la crise de la pandémie de la COVID-19. Et cette pandémie a gravement réduit les moyens de subsistance des ménages, s'ajoutant aux facteurs d'insécurité alimentaire telles que les conflits, les déplacements internes, les risques agroclimatiques, les crises sanitaires, par exemple l'Ebola qui a sévi en Équateur, il y a l'instabilité politique et macroéconomique. En tous ces éléments, je pense que l'intervenant a abordé dans le même sens que ce que j'avais évoqué. Et il a émis le vœu de voir le gouvernement prendre ses responsabilités en matière de gouvernance. Effectivement, à l'arrivée de son Excellence Désiré Birianze et au ministère de l'Agriculture, il a pu organiser les états généraux de l'agriculture. C'était pour déceler les maux qui rongent le secteur agricole. Parce que 30 ans passés, on n'avait jamais été ensemble pour parler en face, pour nous regarder en face, pour qu'on puisse discuter profondément sur le secteur agricole. C'est ce qui a été fait. Et sur base de ces états généraux, des rapports, des recommandations des états généraux de l'agriculture qui a été organisé au mois de septembre 2021, il y a eu des recommandations. Et parmi ces recommandations, il y a par exemple la mise en place de la politique agricole. Et M. Zouz, il a souligné, actuellement, nous avons travaillé avec l'appui de Fonared, CAFI, et on a travaillé avec la FAO. Nous venons de finaliser les documents de politique agricole durable que nous allons soumettre cette semaine au Conseil des ministres pour que ça puisse avoir l'approbation et nous allons les faire évoluer. Maintenant aussi, on travaille sur la mise sur pied. Il a bien dit, sans financement, on ne peut pas faire l'agriculture. Il a parlé de banque de crédit agricole, mais maintenant là, nous sommes en train de nous battre pour que le Fonds national de développement agricole, FONADA, soit opérationnel. Et si on a nulle part au monde, on fait l'agriculture sans financement. Il a évoqué aussi les problèmes de la crise. Si aujourd'hui on dit que près de 27 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire, mais il y a aussi les problèmes liés aux pertes post-récolte. C'est ce que nous avions évoqué pour la transformation. Regardez seulement au Congo central ici. On produit les fruits tels que la mangue, il a parlé des ananas, mais ça pourrisse sans toutefois les transformer. Allez au Sénégal, vous allez voir. Hein. Les jus, vous consommez des jus frais. Donc, si on peut se lancer dans le financement des petites unités de transformation en milieu rural, je pense qu'on résolverait certains problèmes qui se posent. Les problèmes de la gestion post-récolte. Donc, on doit transformer les produits. On doit transformer les produits. Et c'est là que j'ai dit qu'il faut une synergie entre les ministères de l'Agriculture, les ministères de l'Énergie, les ministères des Infrastructures. Saviez-vous que le ministère de l'Agriculture a une usine de production de la farine ici à Mongata? Mais cette usine-là consomme 700 litres par jour pour son fonctionnement. Mais le courant électrique passe par là, hein, pour relier Bukangalonzo à Maluku. Donc, le courant passe par là. Donc, il y a des efforts qui devraient être fournis pour changer le secteur agricole et aussi voir dans quelle mesure, parce qu'il y a aussi les risques agro-climatiques, il a évoqué. Hein, lui, il a parlé de, il y a quelqu'un de Sud-Kivu, je pense l'honorable, il a parlé des bas-fonds qu'on peut comptabiliser parmi les terres arables. Mais dans des bas-fonds, pendant la période de pluie, qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Les inondations. Hein, donc, il y a les risques agro-climatiques que nous devons aussi prendre en compte. Donc, le travail à faire est énorme. Et moi, j'appuie l'idée de l'honorable. Il faudrait que les budgets puissent passer un peu proche de 10%. Hein. Si dans un premier temps, on peut arriver à remonter un peu le budget du secteur agricole, et nous devons aussi travailler sur la gouvernance, donc le suivi et évaluation, et on va tendre vers les partenariats publics-privés. Donc le ministère doit laisser le privé faire la production, par exemple, et le ministère va faire le suivi et évaluation. Et ce serait quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que voilà la voie qui peut nous aider à sortir un peu de ce gouffre. Et ce serait de favoriser les partenariats publics-privés et d'orienter le financement vers la transformation, vers les chaînes de valeur. Et aussi désenclaver le monde rural pour alimenter les marchés, mettre en place un système d'information des marchés pour que les producteurs puissent être connectés directement au marché et surtout au marché en milieu urbain. Donc, merci, il y a des orientations qu'on devrait faire. Il y a aussi des filières de base qu'on doit promouvoir. Dans un premier temps, je prends par exemple les cultures vivrières et ensuite on viendra avec les cultures de rente.
Professeur, on sent que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on vous garde dans cette
madame.
Émission le temps pour nous de prendre ces auditeurs qui nous appellent sur notre standard, ces auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport au débat de ce soir. Olive Moudé-Kereza, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Albert, pour le silence au combat depuis qu'il s'en allait dans la province de la Tchopo. RDC pays à scandale géologique en sol et sous-sol, être classé à la première place au monde avec 26 millions de personnes en insécurité alimentaire est une honte pour la République. La position de l'ONU préconisant que les partenaires au développement travaillent de manière coordonnée est une hypocrisie avec l'échec de cette communauté internationale. Les parlementaires et hommes politiques congolais doivent savoir que la communauté internationale ne peut pas développer la nation, mais nous devons nous prendre à charge pour développer ce pays.
Bref, commentaire, Olive Moudé-Kereza.
Un des programmes, PKGL, autres, des mieux, on ne le voit pas. Je voudrais confirmer et dire au directeur de cabinet que moi...
Alors, Olive Moudé-Kereza.
Oui, je vous écoute.
Alors, vous disiez, on ne vous a pas bien suivi au début, vous disiez...
Je disais que l'auditeur de Kisangani a raison. On a eu tant de programmes de la Banque mondiale, des organisations internationales pour aider les pays à relever le niveau d'activité, mais on n'a pas vu des résultats palpables. Bon, je les encourage, je dis c'est bon, mais il faut qu'au niveau du gouvernement, on décide. Je vous confirme, madame, moi-même je suis agriculteur. Je connais presque une grande partie de la RDC. J'ai été à Maïndombe jusqu'à Bakongo, Congo central. C'est un potentiel énorme. Si sur cette bande-là, sur cette ligne, la RN1, vous exploitez, ça peut nourrir une partie de la RDC. On n'en parle pas ici à l'est de Kisangani, de Bunia, Goma, Bukavu, Kalemi. C'est tout un potentiel énorme. Mais il faut transformer ça en réalité. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faut qu'il y ait ce budget-là. Et lorsqu'il y a ce budget-là, lorsqu'on va donner des crédits, les crédits agricoles ne se donnent pas des bureaux climatisés à Kinshasa. Il faut aller sur le terrain. C'est possible aujourd'hui. Vous allez sur le terrain, vous avez 10 hectares, vous avez quel crédit? Vous avez 100 hectares. Et on demande à tous les leaders politiques, tous les gens qui gagnent au dos des gouvernements, des moyens, qu'ils investissent dans l'agriculture. C'est la seule manière de relever le niveau de ce pays. On ne peut pas compter sur la mine. La mine, un jour, va s'épuiser. D'ailleurs, je demanderai, je proposerai que tous les fonds miniers, les réserves pour le bitir, il faut qu'on investisse dans l'agriculture. Je crois que un budget consistant pour l'agriculture, la défense, l'enseignement, comme je vous ai dit, il y a aussi les sécurités juridiques. Il n'y a personne qui viendra dans ces conditions aujourd'hui de venir investir dans leur vaisseau. Il y a des problèmes, des litiges, la population envahit. Donc, il n'y a pas de, il y a pas d'autorité de l'État sur le terrain. Ça, ça pose aussi problème. Mais je crois qu'il est possible aujourd'hui de s'organiser petit à petit. J'avais proposé dans le projet de 145, de loi de 45 territoires, j'avais fait des propositions depuis 2009 avec des détails précis. Il y a moyen, avec des petits fonds, si vous donnez 1,5 million par territoire, on peut ouvrir quelques kilomètres de cette agricole, on peut réserver une petite partie pour l'irrigation, le drainage, on peut aussi avoir un petit crédit, donner aux femmes des roues, évidemment, les femmes. C'est avec ce qu'on va développer cette vie. On peut construire un petit micro-central, un micro-central peut permettre aux femmes qui produisent des maïs, du riz, des manioc, à les transformer. Et ça va permettre aussi, ça va donner des goûts aux jeunes entrepreneurs de construire des petites unités de transformation.
Merci.
Et on peut maintenant avoir des produits de qualité qu'on peut exporter le surplus et consommer une grande partie.
Merci Olive Moudé-Kereza. Victor Nzouzi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Depuis Goma, la malnutrition reste permanente en RDC et surtout dans sa partie est, où les habitants des villages sont la plupart des cultivateurs et éleveurs ont déserté leur milieu de vie, provoquant ainsi la carence de nourriture dans leur village et dans les milieux urbains. Il faut que la sécurité soit rétablie.
Alors, Victor Nzouzi, cet auditeur pense qu'il faut que la sécurité soit rétablie pour que les habitants ou les cultivateurs s'adonnent à leurs activités. Mais comment promouvoir l'agriculture, justement, en RDC, pour faire face à l'insécurité alimentaire?
Oui, il faut que la sécurité soit rétablie, ça c'est clair. Moi, je pense qu'il y a l'état de siège depuis très longtemps. On doit évaluer l'état de siège. Nous, nous sommes paysans, ça nous fait de la peine. Nous sommes dans le Congo central, qu'on apprenne tous les jours que nos frères au Kivu sont en train de mourir. En Ituri, sont en train de mourir. On ne peut pas faire les champs. Ce n'est pas normal. Alors qu'il y a un temps, depuis qu'on a commencé cet état de siège, et on a même fait, je ne sais pas, des synergies avec l'Ouganda et consorts. Donc, nous devons réellement réévaluer cet état de choses.
Et nous ne devons pas compter sur les étrangers pour faire cette sécurité. Réellement, ça nous fait mal. Alors, pour revenir, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, nous devons apprendre à être sérieux. J'ai dit nous devons apprendre à être sérieux. Vous êtes à Kinshasa là, descendez à Kassangoulou. Vous verrez que toutes les terres à Kassangoulou sont occupées. Partout, c'est écrit concession, concession. Et ceux qui prennent ces concessions-là, ce sont des grands hommes politiques, ce sont des intellectuels, ce sont des hommes d'affaires. Mais ils n'exploitent pas ces concessions. Et ceux qui habitent là-bas, qui ont eu la malchance de vendre leurs terres, ou ceux qui s'installent à Kassangoulou, ils ne peuvent pas travailler sur ces terres. Voilà cette thésaurisation foncière. Alors que la loi foncière est claire. Lorsque vous n'exploitez pas la terre, mais l'État peut même vous la ravir. Donc, il y a ces réformes qu'il faudrait faire. Des gens qui thésaurisent la terre, des gens qui ont la terre, qui ont acheté et qui ne l'exploitent pas. Donc, il faut résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que le gouvernement s'occupe d'abord de son agriculture. Il ne faudrait pas que la recherche agricole soit entre la main de Bill Gates, entre la main de l'IFEA, entre le... Mais non! Si ces gens-là ne donnent pas leur argent, on ne peut pas faire. Et pourtant, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui. Vous prenez les oranges, ils sont malades. Il suffit d'aller vers le territoire de Songololo. Vous verrez comment les arbres, les orangers et les oranges, les fruits sont en train de mourir. Malheureusement, il n'y a pas de suivi. Ici, en Bazangongo, nous faisons ici la tomate. Mais il faut voir, toutes nos cultures maraîchères sont attaquées par des maladies. Et il n'y avait pas. Ce n'est pas seulement l'argent, hein, madame. Ce n'est pas seulement l'argent qui manque. L'argent était là pour qu'on forme des experts avec FIDA, le projet Papakine. Mais à la fin, ces experts n'ont pas été formés. Et à la fin, s'il faut en parler encore, aller plus loin, il fallait faire des infrastructures hydro-agricoles. Mais il faut voir les infrastructures hydro-agricoles. Venez à Mbanzangungu, allez voir dans la vallée de Mbanzangungu le genre d'infrastructures hydro-agricoles qu'on a réalisées. C'est des puits qu'on a mis, alors que les digues, le barrage qu'on devait faire, on ne les a pas réalisés. Donc, il faut aménager notre territoire en faisant, par exemple, des infrastructures liées à l'irrigation. Par rapport au climat, toujours, ici en Mbanzangungu, avec le projet Papakine, que FIDA venait d'évaluer avec le gouvernement, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait dans l'évaluation. Vous allez voir, on devait construire des serres. Les serres, madame. Mais allez voir, il y a juste des lassos de fer, quelques lassos, et les serres n'ont jamais été construites.
Alors, il faut conclure, Victor Nzuzi.
Oui, pour conclure, il faudrait qu'on devienne vraiment sérieux. Ça fait la honte. Un pays où il y a de l'eau, où il y a la pluie, où il y a la main d'œuvre, où il y a la terre, qu'on soit affamé, je pense que le gouvernement, normalement, il peut même démissionner hein, quand il y a des rapports pareils. C'est pas normal. Et merci. Nous, au niveau des questions foncières, il faudrait que la justice aussi nous rende service. Il y a tellement de conflits fonciers pour lesquels on ne trouve pas de solution. Donc ça nous fait des problèmes. Et les députés doivent jouer leur rôle. On dit le peuple d'abord. Mais quel est le budget consacré aux paysans qui représentent plus que 2/3 ou 3/3 de la population congolaise? C'est celui-là le peuple. Mais celui-là, ce peuple, on ne s'en occupe pas. Donc une fois de plus, je dis, il est temps qu'on prenne conscience dans notre pays.
Merci.
On doit sortir de la mauvaise gouvernance, on doit sortir de la mauvaise gestion. Et tant que les gens seront affamés, nous aurons des imbéciles. Excusez-moi, un enfant qui n'a pas mangé, qui est conçu dans la famine, qui grandit dans la famine, alors on est surpris d'avoir des koulouna, on est surpris d'avoir des bandits. Mais est-ce qu'on voit les conséquences de la famine?
Merci Victor Nzuzi. Merci Victor Nzuzi. Merci beaucoup. Merci. On va considérer cela comme votre conclusion. Professeur Apollinaire, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Magene Kakumbo Jules, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans le sud Kivu. Concernant cette situation, moi je vois que ce classement est juste et clair vu la situation sur terrain. Car l'ennemi des Congolais pour le moment, c'est la famine. Et pour moi, pour promouvoir l'agriculture dans notre pays, il suffit seulement d'allouer un budget convaincant qui pourra relancer les activités agricoles et donner aussi, dans ce même angle d'idée, un montant qui peut assurer une production qui couvrira donc les besoins de nos populations et ce que nous pouvons exporter aussi dans les pays étrangers. D'où le gouvernement devrait avoir dans chaque province un chat capable d'alimenter toute la province et les pays étrangers.
Professeur Apollinaire, ce sont là les propositions pour promouvoir l'agriculture en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez ajouter?
Voilà, Monsieur Jules, je suis content que vous ayez mis en exergue le budget. Mais hormis ce budget, je pense pour changer cette tendance, je vais me résumer en 8 points. Il faut prôner l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est cette association, cette association qu'on doit mettre ensemble entre les arbres et les cultures de manière permanente dans l'espace et dans le temps. Donc, il faut associer les cultures vivrières soit aux arbres, soit à l'élevage, soit à la pisciculture, soit à l'apiculture.
Alors, professeur, je vais vous demander...
Il faut favoriser l'entrepreneuriat agricole et rural.
Essayez de vous résumer, professeur Apollinaire.
Il faut favoriser l'approche de développement territorial, favoriser la commercialisation des produits, désenclaver les bassins de production agricole, favoriser l'associer, adapter les pratiques alimentaires les plus équilibrées, intégrer les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat. Voilà les pistes de solutions qui peuvent nous amener à réduire sensiblement le 27 millions de personnes qui vivent en insécurité alimentaire.
Merci, professeur Apollinaire Kilosso, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, Olive Moudekérez. Avant de vous donner la parole pour conclure, on va lire quelques réactions des auditeurs. Robert Baumé qui nous écrit depuis Bukavu, Sud Kivu. Il est vrai que la RDC est en insécurité alimentaire, mais ce serait exagéré de dire ou d'affirmer qu'elle occupe la première place au monde avec 27 millions de personnes dans cette situation. Je pense qu'il serait mieux de déterminer la vraie position de la RDC par rapport à ce fléau. Sinon, que dirait-on de l'Érythrée ou de l'Éthiopie, où presque chaque jour on signale des statistiques effrayantes des morts dues à l'insécurité alimentaire. Alain Tchoukout, depuis Kalemi dans le Tanganyika, c'est inexplicable d'avoir un tel chiffre de nos compatriotes qui sont en insécurité alimentaire, alors que nous sommes un pays qui a des hectares et des hectares de terres arables. Néanmoins, pour promouvoir l'agriculture en RDC, il serait mieux qu'avoir un champ puisse être parmi les critères de briguer un mandat politique dans notre pays. Si nos 500 députés nationaux auraient au moins chacun un hectare de maïs, cela serait une bonne chose. Et enfin, Kevin Mouroula, Kadari, depuis Bukavu, je pense que la solution majeure à ce problème serait aussi d'éradiquer l'insécurité dans les milieux ruraux, source de l'exode rural. Le gouvernement devrait aussi booster le secteur de l'agriculture afin de minimiser l'importation et donner la chance à la production locale. Olive Moudekereza, députée nationale, vos propositions en une minute.
Je crois que ma proposition reste, c'est de revoir les budgets pour l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est le seul secteur qui touche même les bas peuples. Si on investit dans l'agriculture, nous pouvons développer ce pays et diversifier notre économie. Et je suis sûr qu'avec l'agriculture, ce qui va impliquer les autres secteurs. Vous ne pouvez pas aller vous battre sans avoir mangé. Vous ne pouvez pas aller soigner sans avoir mangé. Vous ne pouvez pas aller enseigner sans avoir mangé. Qu'on met un peu de moyens dans les budgets, l'enseignement, vous nous faites une bonne recherche, on va avoir des bonnes semences, on va savoir les périodes qu'il faut semer et quand, comment on va, comme il dit, planter les arbres d'ombrage. Dans la... Tout ça, avec ça, je suis sûr que ce pays pourra se développer et qu'on investisse plus dans l'agriculture. Et que tous ces moyens qu'on bousait à gauche, à droite, qu'on les met dans l'agriculture.
Merci Olive Moudekereza. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé avec l'aide de Dona Madimba. La mise en onde était assurée par Charlie Louyeye. Présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.